Votre invitée, Karine Bécart, Mathilde Panot, députée du Val-de-Marne et présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale.
Bonjour Mathilde Panot.
Bonjour Madame Bécart.
Merci d'avoir accepté l'invitation de France Inter ce matin. Alors c'est un week-end de mobilisation générale pour Jean-Luc Mélenchon. Le candidat à l'élection présidentielle, à 6 mois désormais du scrutin, a décidé de relancer sa campagne et d'organiser une convention de l'Union Populaire qui va se passer à Reims aujourd'hui et demain. Relancer une campagne qui pour l'instant a du mal à décoller. Il est en tête des candidats de la gauche, mais il reste loin, très loin des presque 20% qu'il avait réussi à décrocher en 2017. On va en parler, mais d'abord, j'aimerais qu'on parle de vous, Mathilde Panot. Vous avez 32 ans, vous sortez de Sciences Po et vous avez été désignée cette semaine chef de groupe de la France Insoumise à l'Assemblée Nationale. Autrement dit, vous succédez à Jean-Luc Mélenchon, c'est vous désormais la patronne des députés insoumis. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que vous espérez impulser?
Alors j'ai été élue par mon groupe et j'en suis très honorée.
À l'unanimité.
À l'unanimité. J'étais vice-présidente de ce groupe depuis juin 2019 et je dois dire que je suis extrêmement fière d'être présidente d'un groupe qui a été vu avec beaucoup de mépris au départ parce que dans notre groupe il y a la première aide-soignante de toute l'histoire de l'Assemblée nationale qui l'a été élue, Adrien Quatennens qui est le coordinateur de notre mouvement que les autres appelaient le député call center, Jean Gratton qui a été au RSA activité et je crois que ce que nous avons réussi à donner au pays, eh bien c'est une représentation populaire pour beaucoup de gens qui ne se retrouvaient plus dans l'Assemblée nationale. Et du coup, on a réussi à organiser le retour du peuple en politique. Donc je suis très fière de ça et c'est ce qu'on va continuer. Et c'est les batailles qu'on va mener dans les mois à venir.
Mais ma question c'est, votre impulsion à vous, qu'est-ce que ça va éventuellement changer? Vous n'allez pas tout faire comme Jean-Luc Mélenchon?
Non, mais à la fois tout et rien. Tout et rien parce que je suis vice-présidente du groupe depuis juin 2019, donc je coordonne le travail parlementaire depuis déjà longtemps. Et puis tout parce que je ne suis pas Jean-Luc Mélenchon. Je suis effectivement une jeune femme de 32 ans et avec... un passé associatif extrêmement fort et je crois que c'est la force de la France Insoumise et la force de Jean-Luc Mélenchon de justement faire émerger plein de personnes. Et lorsqu'en 2016-2017, on disait souvent à Jean-Luc Mélenchon « Mais avec qui allez-vous gouverner ?» Eh bien, je crois que vous avez un bel exemple avec les 17 parlementaires à l'Assemblée, mais aussi les 6 eurodéputés au Parlement européen.
Alors, faire émerger, ça me fait tiquer parce que Jean-Luc Mélenchon, qui est candidat officiellement depuis le 20 novembre dernier, ça fait donc déjà 11 mois, il aurait pu vous déléguer cette fonction un peu plus tôt, non?
Je suis vice-présidente depuis juin 2019.
C'est pas pareil.
Non, c'est pas pareil. Mais je crois que c'est quand même un signal là qu'on envoie. C'est un signal. On a Manuel Bompard qui est chef de la délégation, Manon Ombry qui est coprésidente de l'AGOÉ, Adrien Quatennens qui est coordinateur du mouvement.
Il y a des jeunes, quoi.
Et beaucoup d'autres. Et oui, et en fait, quand Jean-Luc Mélenchon vous dit vous en prenez encore pour 30 ans, vous en prenez encore pour 30 ans et il y en a encore beaucoup d'autres derrière nous.
Alors, je le disais, vous organisez une convention de l'Union Populaire ce week-end. Ça se passe à Reims. Première question, elle est sémantique, mais il n'en qu'elle est importante. On parle désormais donc de l'Union Populaire, on ne parle plus de la France Insoumise dans cette campagne présidentielle, c'est bien?
Alors,
ça,
si
qu'est-ce qui se passe?
On parle aussi de la France Insoumise, mais vous comprenez, une élection présidentielle, c'est un moment de grand choix pour le pays. Et dans un moment de grand choix pour le pays, évidemment, l'idée c'est d'ouvrir au maximum. L'Union Populaire, c'est la stratégie que nous avons proposée à nos amphis, donc à nos universités d'été, qui je crois a été le plus gros événement politique de la rentrée. Et quel est-il? C'est de dire que dans un moment de crise où l'oligarchie divise le peuple, nous voulons fédérer le peuple. Et lorsque nous avons regardé sur les propositions emblématiques que nous avons dans notre programme, eh bien, elles sont largement majoritaires dans la société, avec 60 à 90% des gens qui sont d'accord pour que on augmente le SMIC, pour faire une constituante, pour réécrire la Constitution et la retraite à 60 ans, et j'en passe, nous en avons fait 42.
Donc, mais du coup, l'Union Populaire est en train d'absorber quand même un petit peu de la France Insoumise pour vous élargir, je comprends bien.
L'Union Populaire est une stratégie que nous utilisons pour l'élection présidentielle. Et je vous fais remarquer quand même ce qui est assez rare quand vous regardez l'ensemble des candidatures aujourd'hui déclarées, que nous avons aujourd'hui un candidat qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, un programme et à 6 mois des élections présidentielles, il n'y en a pas beaucoup qui en ont, qui s'appelle l'Avenir en commun, une stratégie de l'Union Populaire et une équipe, et même plusieurs équipes s'il le fallait.
Alors ce qui est intéressant malgré tout dans tout ça, c'est qu'à chaque campagne présidentielle, Jean-Luc Mélenchon change de nom de parti ou de nom de campagne. En 2012, il était Front de Gauche. En 2017, il est donc Insoumis. Et en 2022, il est Populaire. Mais le candidat reste le même, Mathilde Panot.
Mais oui, parce que nous pensons que l'élection présidentielle, elle se fait autour de grandes idées. Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas si vous avez vu, mais ces derniers mois a proposé de nombreuses choses. Le blocage des prix au moment où il y a une alerte pauvreté absolument terrible dans notre pays. Il a proposé qu'on arrête avec Parcoursup. Il fait des propositions.
Parce mais c'est que pas crois... ma question. Ma question, c'est si, est-ce que c'est juste cosmétique en fait
non,
ce changement
c'est pas cosmétique
de nom
parce que
le candidat reste le même.
Non, c'est pas cosmétique. Alors déjà, bon, il faut reconnaître quand même à Jean-Luc Mélenchon une certaine cohérence de pensée et de projet politique à proposer au pays. Donc ça, c'est la première des choses. Mais c'est pas cosmétique parce que la campagne de 2011-2012, c'est pas la même campagne que celle qu'on mène maintenant. La campagne de 2011-2012, rappelez-vous, le Front de Gauche, bon, c'était l'idée de faire un pôle de gauche à côté du Parti Socialiste. Là, nous ne sommes pas sur cette stratégie-là. Nous avons fait un changement stratégique qui a été amorcé en 2017, qui est de dire... Nous accueillons tout le monde, nous fédérons les gens à partir des idées programmatiques, ce qui est une stratégie bien plus ouverte et qui, je crois, correspond bien à la situation extrêmement volatile que nous vivons. La preuve, Jean-Luc Mélenchon, sur son nom et sur son programme, a réuni 7 millions de voix aux dernières élections présidentielles.
Alors, Arnaud Montebourg, qui était l'invité de Questions politiques sur France Inter le 27 septembre dernier, expliquait que Jean-Luc Mélenchon, je le cite, « ne pourrait jamais gagner la présidentielle à cause de ses excès ». Comment les effacer ? Juste en changement de nom ?
Bon, déjà, Arnaud Montebourg et d'autres sont spécialistes de parler de Jean-Luc Mélenchon pour exister peut-être dans le débat politique.
Dans le paysage politique ?
Oui, dans le débat politique. Moi, j'aimerais que sur cette présidentielle, qu'on ne se le fasse pas voler ni par l'abstention. Ça, c'est le travail de terrain absolument phénoménal qu'on fait, notamment avec des caravanes et des porte-à-porte dans les quartiers populaires, et qu'on ne se la fasse pas voler non plus sur la question des thèmes. Parce que quand vous voyez que toute une partie de la campagne présidentielle se fait aujourd'hui sur des thèmes d'extrême droite, je crois que l'urgence n'est pas là. Quand je vous ai dit qu'il y a une alerte sur la pauvreté, quand vous avez 10 millions de personnes dans le cinquième pays le plus riche au monde qui vivent sous le seuil de pauvreté, 7 millions de personnes qui sont privées d'emploi, 8 millions de personnes qui ont besoin d'aide alimentaire, je crois que le choix que nous allons faire en avril 2022 est absolument décisif et il est très clair. Soit on continue avec Emmanuel Macron, le président des riches, soit c'est l'extrême droite la plus haineuse et la plus dangereuse, soit c'est nous qui proposons le retour du peuple en politique, la constituante, et de réorganiser, redécider les règles du jeu.
Mathilde Panot, le temps file. Pour finir, je voudrais vous poser une question sur cette journée très spéciale aujourd'hui de commémoration, un an après l'assassinat, je devrais même dire un an après la décapitation d'un professeur d'histoire géo, Samuel Paty. Qu'est-ce qui a changé en un an ?
Alors, il y a eu, bon, déjà, je pense que c'est une journée d'hommage, donc il faut commencer par rendre hommage et s'incliner devant la mémoire de Samuel Paty. Et penser à ses élèves, à ses proches, à ses collègues.
Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce qu'on se bat mieux ? Est-ce qu'on se bat plus efficacement contre l'islamisme radical ?
Alors non, enfin, je pense qu'il y a des choses qui ont été faites, notamment sur l'augmentation des effectifs de Pharos. Vous savez, cette plateforme en ligne qui permet de signaler des propos ou des haineux qui seraient tenus en ligne, qui avait seulement 20 personnes dans ses effectifs au moment de l'assassinat de Samuel Paty. Mais on n'est pas à la hauteur en termes de moyens humains. Et il faut prendre soin de notre jeunesse et protéger les enseignants.
Merci Mathilde
Panot. Merci à vous.
Je vous souhaite malgré tout une excellente journée.